Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, bienvenue dans ce panel sur l'économie russe. On m'a chargé de vous donner une information ou de la redonner, qui est que vous pouvez poser des questions en ligne, que je recevrai sur la tablette, et il y aura un temps de réponse aux questions et de discussion à la fin du panel, vers la fin du panel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais remercier d'avoir pris sur leur temps pour venir nous rejoindre dans ce panel, les trois orateurs qui vont s'exprimer dans l'ordre suivant. Tout d'abord, à ma droite, Julien Vercueil, qui est professeur de sciences économiques à l'INALCO, ou l'ANGSO si vous préférez, dont il est le vice-président et le spécialiste de la Russie. Alors nous aurons ensuite, alors c'est un peu une mauvaise nouvelle, Catherine Locatelli a été testée positive au Covid avant-hier. Alors elle n'est pas venue nous contaminer, et je la remercie, mais je la remercie aussi surtout pour participer néanmoins au panel. Alors je n'ai pas dit que Julien allait parler de l'économie russe et surtout de ses échanges extérieurs. Catherine Locatelli est une spécialiste de l'énergie et en particulier des hydrocarbures, donc elle nous parlera de ce secteur crucial de l'économie russe. Catherine est chargée de recherche CNRS dans un centre de recherche qui s'appelle le Laboratoire d'économie appliquée de l'Université de Grenoble-Alpes. Et le troisième ou quatrième, je ne sais pas comment il faut dire, intervenante en l'occurrence, sera Tania Sologoub, à ma gauche, qui est économiste senior au Crédit Agricole. Je précise tout de suite qu'elle va s'exprimer en tant qu'expert à titre personnel. Ses propos n'engagent en rien la banque, qui est suffisamment d'ailleurs engagée en Russie pour l'instant encore. Non, plus. Alors, qui n'est plus engagée, elle va nous le préciser. Voilà, mais elle s'exprime à titre personnel, j'y insiste. Et elle est également enseignante à Sciences Po dans le Master Finance. Donc voilà, c'est le plateau que nous avons. Alors, lorsque Pascal Lemerrer m'a approché, ce qui devait être vers la fin février, en me demandant d'organiser ce panel, on n'avait aucune idée de ce que serait l'économie russe 9 mois après. Alors, je ne suis pas sûr qu'on en ait une idée parfaite non plus aujourd'hui, mais enfin, on en sait un peu plus. Et donc, la première question à laquelle ce panel va tenter de répondre, c'est où en est l'économie russe ? Après 9 mois de guerre, où en est l'économie russe ? Alors, je vais juste prendre 3 minutes pour vous exposer 4 faits stylisés en rapport avec la deuxième question qu'on peut se poser dans ce panel. Donc le premier, où en est l'économie russe ? Et la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette économie retourne vers l'économie de pénurie ? L'économie de pénurie étant la caractéristique des économies de guerre ou en guerre. Donc, qu'est-ce qu'une économie de pénurie en 3 minutes ? Eh bien, un premier point, une économie de pénurie, c'est une économie qui subit de manière permanente ou récurrente des ruptures d'approvisionnement, des approvisionnements défectueux et qui ont immédiatement pour conséquence, un, de ralentir la production, mais deux, surtout, de désorganiser la production. Parce que si je suis pas bien approvisionné, je vais pas bien produire, donc je vais faire de mauvaises livraisons qui sont de mauvais approvisionnements pour les entreprises qui sont en aval de la mienne. Et donc, normalement, une économie de pénurie a une production ralentie qui finit par une baisse du taux de croissance qui peut même, à la longue, devenir un taux de croissance négatif. Le deuxième fait stylisé, c'est que donc les pénuries ou les défauts d'approvisionnement se propagent de secteur à secteur, comme je viens de le dire, et ils peuvent atteindre les secteurs de biens de consommation. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se produit ? Il se produit ce que les économistes appellent un excès de demande insatisfaite des consommateurs et qui va se traduire, suivant que les prix sont fixes ou flexibles, ça va se traduire, si les prix sont fixes, par des files d'attente dans les magasins que tous les spécialistes de l'Union soviétique ont étudié pendant des décennies, ou bien les prix sont flexibles, libres, et à ce moment-là, ça va se traduire par une inflation forte qui peut même dégénérer en hyperinflation. La troisième caractéristique ou fait stylisé d'une économie de pénurie, c'est que c'est une économie qui a tendance à importer beaucoup. Elle a une forte propension à importer pour combler les manques, les pénuries de sa propre économie intérieure. En revanche, sa propension à exporter est relativement faible, précisément parce qu'elle est en pénurie, elle exporte peu. Et donc, si on importe beaucoup, on exporte peu, il y a une tendance normalement au déficit extérieur d'une telle économie. Alors évidemment, beaucoup d'économies de pénurie, pour cette raison même, deviennent des économies autarciques, enfin réduisent leurs échanges extérieurs pour ne pas subir ce déficit du commerce extérieur. Mais il y a une exception. Si l'économie de pénurie a la chance de détenir sur son territoire ce que j'ai appelé des produits exportables par nature, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'un long processus de production ou pas beaucoup d'échanges avec les autres secteurs, donc qui échappent en quelque sorte, ou en partie au moins, à la pénurie, alors quelque chose peut fonctionner. Alors c'est typique des ressources naturelles et particulièrement des sources énergétiques et encore plus particulièrement des hydrocarbures qui ont tendance à devenir un secteur clé dans les économies de pénurie qui disposent de cette ressource. C'est pourquoi l'économie de pénurie a pu perdurer pendant des décennies en Union soviétique, en Russie bien sûr par voie de conséquence, mais aussi dans d'autres pays auxquels on ne pense pas spontanément, peut-être l'Algérie, l'Irak, l'Angola, j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à notre premier orateur. Merci Julien d'être parmi nous. Tu as la parole pour 15 minutes.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Tout d'abord, merci Vladimir de m'avoir proposé de participer à ce panel sur l'économie de la Russie. Alors ce que je vais essayer de faire en 15 minutes, c'est trois choses. D'abord, vous expliquer quel est le contexte d'information dans lequel on se trouve aujourd'hui pour essayer d'analyser l'économie de la Russie. Ensuite, ce que, compte tenu de ce contexte d'information, on peut dire sur l'état de l'économie de la Russie, tout en essayant de répondre à la question de Vladimir. Est-ce que le repli de la Russie est un premier pas vers l'économie de pénurie? Et puis, troisièmement, justement, puisqu'il s'agit de premier pas, essayer d'imaginer quelques scénarios possibles, puisqu'on est dans une journée de l'économie, enfin des journées de l'économie qui sont consacrées aux bifurcations. Et s'il y a bien une bifurcation, c'est celle de la guerre en Ukraine, bifurcation géopolitique majeure qui touche le monde entier. Alors, première question, faut-il croire les statistiques russes? Trois points. Premier point, on a observé depuis la fin des années 2000 et tout au long des années 2010 une politisation progressive des statistiques économiques en Russie, c'est-à-dire leur instrumentalisation, leur usage à des fins politiques. Ça ne voulait pas forcément dire qu'elles étaient modifiées, mais ça voulait dire qu'elles étaient utilisées de manière de plus en plus flagrante pour faire passer un certain nombre de messages politiques. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du classement Doing Business de la Banque mondiale, qui a été magistralement instrumentalisé par Vladimir Poutine et ses conseillers. Deuxième élément, au fur et à mesure que le régime se crispe, il se crispe en une vingtaine d'années, il devient de plus en plus averse aux mauvaises nouvelles. Et on a un exemple qui n'est pas économique, mais qui est vraiment flagrant, qui est la gestion des informations sur l'impact de la crise du Covid en Russie. Dès mai 2020, il était possible, et je l'avais fait, de calculer l'écart entre les chiffres avancés par les organismes officiels de la Russie et la mortalité probable effective en Russie, qui était un écart de 1 à 4. Et en fait, cet écart s'est trouvé confirmé par les statistiques d'Eurostat elles-mêmes, tout simplement par la surmortalité, qui ont montré que la Russie avait été l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Environ, on estime, à 1 million de morts en Russie causées par la pandémie, au lieu des 300 et quelques mille qui sont annoncés et qui sont reproduits dans toutes les statistiques que vous pouvez trouver aujourd'hui. Troisième élément, la guerre. Et en fait, c'est très intéressant de voir que dans le cadre de la guerre, on a une présentation un peu paroxystique de cette utilisation des statistiques, puisque c'est en particulier un des rapports de la Banque centrale de Russie qui avait été posté sur le site de la Banque centrale de Russie en juillet 2021 qui a permis à certaines des sanctions d'être aussi efficaces dans le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie à l'international. Et donc la Banque centrale de Russie a immédiatement réagi en disant deux choses tout à fait significatives, mais dans les heures qui ont suivi. Hein. Première chose, le système bancaire ne doit plus diffuser d'informations. Sur son site. Deuxièmement, il faut qu'il continue à me produire des informations à moi-même. Donc, on a une réaction tout à fait immédiate qui montre que là, on passe à un autre stade qui est non plus le stade de l'utilisation, mais le stade de la modification des données. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est faux dans les statistiques qui sont produites aujourd'hui en Russie ? La réponse est non. Pas du tout. Il y a encore des statistiques qui sont relativement fiables, qui sortent de Russie. Mais, et ça je m'adresse aux étudiants qui sont là, ça veut dire que il faut confronter et faire le tri. Hein ? Confronter les statistiques avec d'autres sources qui peuvent servir de contrôle. Et lorsqu'il y a un écart trop important, trier quand c'est possible. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Alors, le deuxième point, la deuxième question, c'est les trois phases de l'économie russe depuis la guerre. Donc, depuis février 2022, on a eu trois phases. Une première phase qui est une phase de crise aiguë du système financier qui commence à la toute fin février et qui se poursuit durant le mois de mars, pendant laquelle le système financier est touché par trois chocs. Premier choc, un énorme choc de confiance qui est provoqué par la décision tout à fait inattendu en Russie, d'aller en guerre. Et donc, ça crée une incertitude radicale en Russie qui se traduit par une chute de la confiance. Et la chute de la confiance, ça veut dire que tous les projets sont stoppés, y compris en Russie. Tous les projets sont arrêtés. Donc, on a un plongeon de l'activité économique immédiate. Enfin, en tout cas, des projets. On gèle des activités qui étaient en cours. L'économie de la Russie avait une dynamique de croissance qui était relativement bonne. Jusqu'en février 2022, on était aux alentours de 3,5% de croissance attendue pour l'année. Le deuxième élément, c'est les sanctions. Les sanctions ont touché tout de suite le système financier. Je ne rentre pas dans le détail des sanctions, si vous voulez, on en donnera des exemples. Mais ça a déstabilisé très profondément le système bancaire. Ça a déstabilisé la confiance des banques les unes envers les autres. Et ça a aussi déstabilisé le pompier bancaire qu'est la Banque centrale, puisqu'il s'est retrouvé assez rapidement privé d'une partie des ressources qui lui permettaient d'éventuellement faire face à ce choc. Et tout ça, ça a entraîné une plongée du rouble, qui a été très forte, hein, moins 30, moins 40%. Et qui a donné lieu à, évidemment, des difficultés majeures pour le système bancaire russe. Mais ce qui est intéressant, c'est que la phase 2 a suivi la phase 1. Et la phase 2, c'est le rétablissement financier. Et ce rétablissement financier s'est opéré assez vite, si vous voulez, à trois niveaux. Premier niveau qui n'a pas servi à grand-chose, qui était une très forte augmentation des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale, immédiate, et une deuxième mesure de la Banque centrale qui a été beaucoup plus efficace, qui a été un contrôle d'échange extrêmement fort, j'expliquerai ce qu'il en est plus tard si vous avez des questions, mais qui a réussi à stopper l'hémorragie des devises qui quittaient la Russie. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que les conséquences de la guerre, et ça Catherine Locatelli en parlera tout à l'heure, ont été d'augmenter de manière extrêmement rapide et très spectaculaire les prix internationaux du pétrole, donc de maintenir un flux de devises extrêmement important en provenance du reste du monde vers la Russie. Et ça, c'est le troisième élément qui a permis ce rétablissement financier. Et nous sommes aujourd'hui dans la phase 4, qui est une phase d'érosion économique, dans laquelle un certain nombre de décisions qui ont été prises par les entreprises internationales de quitter la Russie, dans laquelle les conséquences du choc initial inflationniste, chute du rouble, destruction de la confiance, gel de plein de projets, tout ça produit ses effets petit à petit, et l'économie russe est en train de perdre de manière assez forte son élan. Est-ce qu'il y a eu des pénuries ? Oui, il y a eu des pénuries. Puisque la question, c'est les pénuries. Il y a eu des pénuries dans la première phase, dans la phase 1. Des pénuries sporadiques qui ne sont pas liées à l'offre, pas du tout, qui sont liés à la demande. Et ça, c'est quelque chose qu'un économiste dont il sera question cet après-midi, dans un autre panel, Janosch Kornay, avait parfaitement identifié. Il avait parlé de stockage hystérique, c'est-à-dire la demande, en phase d'incertitude radicale, se porte de manière tout à fait beaucoup plus forte que d'habitude sur un certain nombre de produits qui sont des produits refuges. Voilà. Et on stocke de manière hystérique, disait Kornay, c'est exactement ce qui s'est passé, et ça, c'est ça qui a produit les pénuries. Mais une fois ce premier élément passé, eh bien, on est revenu à une situation de dégradation beaucoup plus lente, qui se traduit par cette érosion économique dont je parlais tout à l'heure, et qui, ici, prend la forme d'une réduction de la variété de l'offre en Russie, qui n'est pas nécessairement une pénurie au sens dur du terme, mais qui est une contraction de ce que Ricardo Haussmann appelle l'espace des produits, hein, qui était déjà relativement limité en Russie, qui était alimenté par l'importation, mais qui, là, est moins alimenté par l'importation, donc qui se réduit. Donc il n'y a pas vraiment de pénurie, mais il y a une réduction de l'éventail des choix pour les consommateurs. Alors, les estimations disponibles sur le repli de la Russie, voilà ce qui est l'héritage, hein, l'héritage de croissance 2021. Croissance 2021 4,7%, une croissance de rétablissement après une chute du PIB en 2020. Une inflation qui avait accéléré et qui était pas mal contrôlée par la Banque centrale à 8,4%. Cette croissance était portée essentiellement par la consommation des ménages, mais également par l'investissement. Et assez classiquement pour la Russie, on a un écart positif quand on a une phase de reprise entre la reprise des exportations, des importations, qui est beaucoup plus forte que la reprise des exportations. Voilà où on en était à la fin 2021. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour vous parler de 2022 ? J'ai utilisé des sources russes. Voilà. Et voilà les sources russes, voilà ce qu'elles disent. Alors j'en ai utilisé deux. J'ai utilisé la Banque centrale de Russie, qui fait un travail tout à fait sérieux sur la question. Et puis l'Académie des sciences de Russie avec l'Institut de prévision d'économie nationale, où un certain nombre de collègues continuent à travailler. Et vous voyez que ces prévisions, ces estimations sont relativement cohérentes les unes avec les autres, avec une chute attendue du produit intérieur brut de plus de 3%, une inflation qui a bondi de 8 à 13%, 13 environ, la consommation des ménages qui était à plus 9,5%, qui descend à moins 3, moins 6%, donc moins 4,5%, on va dire. Hein, donc une chute de la consommation des ménages par rapport à une dynamique initiale qui était très forte. Et le plus important, mais ça c'est classique, c'est ce qu'on appelle l'effet d'accélérateur d'investissement, une chute de la formation brute de capital fixe qui est encore plus forte que la chute de la consommation des ménages. Et là on voit les exportations dont la chute est d'environ entre moins 12 et enfin voilà, en gros moins 12%, et les importations qui sont encore plus fortes, ce qui là aussi est une caractéristique de l'économie de la Russie. Lorsqu'on a une contraction de l'économie, on en a eu plusieurs dans les 10 dernières années, on a toujours une contraction des importations qui est plus forte que la contraction des exportations. Bien, terminons sur la suite. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est là qu'on va voir des bifurcations. Et en fait, je ne vais pas parler de bifurcation, mais je vais parler de trifurcation. Parce que je vais proposer trois scénarios. Trois scénarios de développement à court et moyen terme possibles pour l'économie de la Russie. Avec un premier horizon qui est un horizon relativement rapproché, et ensuite un nouveau rythme de croisière, si tant est que ce rythme de croisière peut être atteint. Première bifurcation majeure, ça c'est quelque chose que j'avais produit en avril dernier, mais j'ai rien changé. J'ai rien changé à cette présentation-là. La prochaine bifurcation majeure, c'est le devenir la rente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Occidentaux ont ciblé le système financier. On a vu ce qu'il en a été. Il s'est rétabli. Pourquoi est-ce qu'il s'est rétabli? Parce que la rente permet de rétablir le système financier. Les régulationnistes disent, et j'en suis un, que les institutionnalistes disent que le régime d'accumulation de la Russie est un régime d'accumulation extraverti rentier. Ça veut dire que c'est la rente qui explique les variations de la conjoncture. Et tant que la rente est au niveau auquel elle se trouve aujourd'hui, eh bien, la Russie, dans son ensemble, et l'État en particulier, a les moyens de faire face à des chocs extérieurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, de deux choses l'une, soit la rente continue d'être au point où elle est, c'est-à-dire que la taxe sur le reste du monde reste très importante, et nous continuons à être prélevés pour financer l'effort de guerre russe, soit elle est réduite. On verra éventuellement, si vous voulez, plus tard, les moyens. Hein. Prenons le premier cas. Scénario 1, continuation. Continuation à court terme de la rente. Dans ce cas-là, il n'y a pas de récession, il n'y a pas de crise systémique. Il y a une récession inflationniste, c'est-à-dire, en fait, on est sur la situation dans laquelle on se trouve. Hein. Récession qui se poursuit en 2023 avec une chute du produit intérieur brut peut-être un peu plus faible que celle de 2022. Et une inflation qui va se maintenir à des niveaux relativement élevés, tout en se résorbant petit à petit. Pour pouvoir faire face à cette récession, l'État s'engage de plus en plus. C'est aussi l'idée d'économie de guerre, mais pas au sens de notre président, au vrai sens du terme, hein, c'est-à-dire au sens où l'économie s'oriente sur la guerre. Hein. Et ça entraîne une augmentation modéré de la régulation de l'État. Pour l'instant, l'État représente un peu moins de la moitié du PIB. Il peut monter un peu au-dessus de la moitié du PIB, mais ça restera une économie qui ne sera pas une économie soviétique. Et là vient une variable exogène dans le scénario qui est, est-ce que la Chine intervient en soutien de manière importante ou pas? Pourquoi c'est une variable importante? Parce qu'il y a un écart de 1 à 10 entre le PIB de la Russie et le PIB de la Chine. Donc si la Chine décide d'aider, elle peut le faire. Il peut le faire de mille et une façons, et en particulier en tant que client, mais aussi en tant que fournisseur, et en particulier des fournisseurs de technologies qui ne sont plus amenés par les Européens. Donc, premier sous-scénario, extension, intervention forte de la Chine, qui devient en fait une sorte de substitut de l'Union européenne. L'Union européenne a porté à peu près 40% des ressources extérieures à la fois des fournitures et à la fois des livraisons pour la Russie, eh bien la Chine petit à petit se substituerait, mais ça c'est à moyen long terme, à l'Union européenne. Dans ce cas-là, on a une réorientation progressive de l'insertion internationale de la Russie et une Russie qui devient rentière, elle ne bouge pas, son régime d'accumulation reste le même, semi-asiatique, c'est-à-dire que elle se détourne de l'Union européenne et des Occidentaux pour devenir beaucoup plus orientée sur l'Asie, en particulier sur la Chine. Deuxième sous-scénario, faible intervention. On sent que c'est plutôt ce scénario-là qui est en train de se dessiner. En tout cas, les dernières indications font plutôt penser à ça. Et dans ce cas-là, le déclin socio-économique de la Russie s'accélère. Il s'accélère assez largement parce que l'espace des produits se réduit, parce qu'il y a moins de ressources qui viennent de l'étranger. Et donc, on se retrouve dans une Russie qui est rentière, qui reste rentière, mais qui est très largement marginalisée, puisqu'elle n'a plus de soutien majeur dans l'économie mondiale. Et le troisième et dernier scénario, c'est l'assèchement à court terme de la rente pétrolière. On a une crise systémique, c'est-à-dire ce que les régulationnistes appellent une crise du régime d'accumulation et pas juste une crise du mode de régulation. Une extension illimitée des régulations d'État. Dans ce cas-là, il est sûr que la Chine ne vient pas en soutien de manière forte. Elle n'interviendra pas dans ces circonstances. On a des défis majeurs de coordination, une forte instabilité politique et une économie qui devient très étatisée, et qui devient un dominion technologique chinois, puisque le peu de technologie qu'elle peut obtenir vient de la Chine. Je vous remercie.
Merci à Julien, tu as été parfait sur le timing, bravo. Donc je fais appel à la technique pour que nous recevions maintenant l'intervention en distanciel, comme on dit, de Catherine Locatelli. Catherine, vous avez la parole, si on vous la donne, enfin si techniquement, voilà, je pense que ça va marcher.
Merci beaucoup, monsieur Andraft. Alors moi je suis très, très contente d'intervenir aujourd'hui sur les questions des hydrocarbures. Je vous prierai d'abord de m'excuser parce que j'ai été effectivement testée positive au Covid, donc j'ai un petit peu du mal à parler, mais j'espère que ça va quand même aller. Alors on a déjà commencé un petit peu dans la présentation précédente à parler de cette grande question des hydrocarbures de la Russie, et il y a quand même deux grands volets dans cette question là. Il y a d'abord effectivement le volet conséquence interne de la Russie, hein, les hydrocarbures, c'est effectivement une source importante de revenus pour la Russie, une source importante de croissance économique et d'équilibre budgétaire. Mais il y a un autre volet qui me semble tout aussi important, qui est quelles conséquences du retrait de la Russie des marchés pétroliers et gaziers. Et est-ce que quand même on peut se passer totalement d'un approvisionnement en pétrole et en gaz russe? Alors, concernant la première question, la première question, elle est directement liée aux sanctions qui ont été mises en place. Alors, je vous les rappellerai rapidement, hein, c'est des sanctions, le retrait des grandes compagnies pétrolières internationales, mais qui n'est pas totalement acté, puisqu'on a encore des grandes compagnies comme Total qui restent dans les projets de GNL, et on a encore les compagnies chinoises, indiennes et japonaises qui restent dans les projets gaziers de Sakhalin. Hein, donc, ce retrait n'est pas total. On a ensuite les sanctions technologiques, et puis on a surtout cette volonté de l'Union européenne de, d'ici 2027, de se désengager totalement d'un approvisionnement en énergie en provenance de Russie. Alors le timing était le suivant sur le gaz, il s'agissait de diminuer de 2/3 les importations à partir de fin 2022 et de cesser totalement en 2027. Bon, ce calendrier s'est un petit peu accéléré avec ce qui s'est passé sur la fin de la livraison à partir du Nord Stream 1. Et puis, on a le moratoire qui va s'imposer à partir du 5 décembre de cette année. C'est-à-dire qu'à partir du 5 décembre, en théorie, l'Union européenne ne devrait plus prendre de pétrole brut en provenance de Russie. Et à partir de 2023, de février 2023, elle ne devrait plus prendre de produits pétroliers, à l'exception de quelques pays qui ont été exemptés de ça, la Hongrie, la Bulgarie, pour des raisons de dépendance extrêmement forte. Donc il y a bien cette volonté, finalement, du côté de la communauté internationale, de ne plus s'approvisionner ou de diminuer les approvisionnements en provenance de la Russie. Alors, l'idée derrière ce désengagement, c'est de dire finalement, ça va permettre de diminuer les revenus financiers qui sont adressés à la Russie, entre parenthèses, de plus financer l'effort de guerre, comme on a pu le voir écrit ça et là. Et donc de mettre à mal la croissance économique russe. Problème, est-ce que vraiment cette mesure s'est traduite dans les faits? Alors c'est extrêmement compliqué de savoir aujourd'hui où en sont les exportations pétrolières et gazières russes. Comme M. Verkeil l'a mentionné au début, on est quand même dans des schémas extrêmement opaques aujourd'hui sur les statistiques et en plus sur les réseaux d'acheminement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est à peu près sûr que les exportations gazières russes ont beaucoup diminué. Mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on est en train de dire qu'une grosse partie du gaz en provenance d'Azerbaïdjan qui va vers l'Union européenne est en fait du gaz russe. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui arrive de ce gaz dans l'Union européenne, d'autant plus qu'il y a quand même encore deux gazoducs qui fonctionnent. Il y a encore de la livraison qui se fait par l'Ukraine et il y a encore de la livraison qui se fait par le Turkish Stream. Et deuxième élément, et du côté du pétrole, la baisse de 1 million de barils jour des importations pétrolières de l'Union européenne, en fait, a été reportée sur la Chine et l'Inde, qui ont totalement compensé ces baisses de livraison de l'Union européenne, avec la grande question, que va-t-il se passer à partir de décembre, hein? Est-ce que la Russie est capable de réorienter un peu plus d'un million de barils jour à partir de décembre? C'est quand même une question qui reste posée, qui reste totalement ouverte. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, les accroissements du prix du gaz et du prix du pétrole ont quand même permis de maintenir, voire d'augmenter à certains moments, les revenus financiers de la Russie. Donc, on reste extrêmement prudent sur cette histoire de déconnexion de la Russie du marché pétrolier international. Alors, sur le futur, bien évidemment, tout dépendra de la capacité de la Russie à réorienter ses exportations pétrolières et gazières vers l'Asie, et on pense en particulier vers la Chine et l'Inde. Alors, ça peut se faire sur le pétrole relativement vite, c'est beaucoup plus compliqué sur le gaz naturel, puisque sur le gaz, il va falloir refaire des gazoducs, mais c'est bien dans l'intention de la Russie de ramener le pétrole qui allait vers l'Union européenne, de le ramener vers la Chine, vers le Japon, et voire éventuellement vers l'Inde. Alors, dans ce contexte-là, donc tout dépendra du rythme et de l'ampleur du basculement du pivot gazier et pétrolier vers la Chine. Alors, les conséquences sur la production, on a beaucoup évoqué le fait que les sanctions occidentales allaient mettre à mal la production pétrolière et gazière russe. Je pense qu'il faut être assez prudent sur ce point-là. Il me semble que ce qui risque de mettre à mal l'évolution de la production pétrolière et gazière russe, c'est plutôt la demande qui lui sera adressée. Si effectivement la Russie n'arrive pas à faire rapidement son pivot vers l'Asie et d'une ampleur égale à ce qu'elle exportait vers l'Union européenne, il n'y aura pas besoin de faire augmenter la production pétrolière et gazière russe. Donc, dans ce cadre-là, la question des sanctions, en particulier technologiques, sera moins prégnante, puisque cette technologie, elle servait surtout à mettre en production des gisements difficiles à produire. Là, on n'aura plus besoin de mettre en production ces gisements un peu difficiles à produire, et donc, par conséquent, on aura moins cet effet sanction, à l'exception d'un point qui sera le GNL. La Russie veut devenir un exportateur majeur de GNL, or le GNL est sur technologie américaine. Donc effectivement, là, le programme de GNL russe peut être mis à mal ou en tout cas retardé de quelques années par rapport à ce qui était initialement envisagé. Du côté des financements, ce qu'on a vu apparaître, et je tiens à le souligner, hein, ça date, c'est des inflexions qu'on voit apparaître avant en fait la crise entre la Russie et l'Ukraine. C'est quand même la Chine qui devient un des financeurs importants des grands projets énergétiques et en particulier des grands projets gaziers russes. Le projet de Total, hein, avec Novatek sur le GNL, est en fait largement financé par la Chine. Et donc, cette question du financement va être importante. Il va être important de voir si la Chine est prête à s'engager plus massivement sur le financement des hydrocarbures de la Russie. Alors, dernière conséquence qui me semble importante de mentionner, en tout cas du côté de la Russie, c'est que probablement toute la logique des réformes qui avait été mise en place sur le secteur des hydrocarbures va être complètement bouleversée. Quoi qu'on en dise, l'objectif majeur de la Russie depuis, me semble-t-il, la fin des années 2010, c'est quand même d'avoir des acteurs qui deviennent des acteurs internationalisés et des acteurs globaux du marché pétrolier et gazier. On voit bien sur la Russie qui adhère à l'OPEP+, on voit bien Rosneft se constituer en grande compagnie pétrolière internationalisée, jouer sur les marchés pétroliers. De la même manière sur le secteur gazier, l'objectif c'était bien d'exporter à la fois vers l'Europe, vers l'Asie, voire même l'Amérique latine si les conditions se prêtaient. Il me semble que ce projet de globalisation a pris fin avec ce qui s'est passé avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine et en particulier avec la volonté de l'Union européenne de se désengager totalement d'un approvisionnement énergétique en provenance de Russie. Alors ça me permet d'évoquer la deuxième question qui est bien évidemment les conséquences sur les marchés pétroliers et gaziers. Alors je vous rappellerai simplement les conclusions de quelques grandes conclusion que vient de publier l'Agence internationale de l'énergie à ce propos. L'Agence internationale de l'énergie considère qu'on est aujourd'hui dans une crise énergétique mondiale. Alors une crise énergétique mondiale qui se dessinait avant le conflit, mais qui a été largement accentuée par le conflit. Deuxième grande conclusion, elle considère que même après la résolution du conflit, et quelle que soit la résolution de ce conflit, les marchés pétroliers et gaziers ne redeviendront plus comme avant. C'est-à-dire qu'on a une véritable rupture parce que derrière les réorientations de volume qu'il y a, on a d'autres choses qui sont en train de se jouer et ces autres choses, c'est de nouvelles configurations, des échanges, de nouvelles modalités d'échanges et de nouvelles modalités d'organisation des marchés pétroliers et gaziers. Alors, simplement pour illustrer ces éléments-là, je voudrais simplement prendre deux exemples. Premier exemple, c'est le marché gazier de l'Union européenne. Marché gazier de l'Union européenne, la Russie, c'est 40% des fournitures de l'Union européenne. C'est donc se retirer de 40% de ces livraisons-là, il va falloir trouver 40% d'alternatives. Mais ce n'est pas simplement trouver 40% d'alternatives. La Russie se positionnait de manière très particulière sur ce marché gazier de l'Union européenne. Elle était d'abord le fournisseur à bas coût de production, donc vraisemblablement l'Union européenne va aller vers une fourniture gazière plus chère, avec des conséquences importantes sur sa productivité, sur son secteur industriel, etc. Deuxième élément important, la Russie, c'était aussi ce qu'on appelle dans le domaine énergétique le swing supplier. C'est-à-dire que c'était elle qui faisait l'équilibrage, à la fois à la hausse, quand il y avait besoin de plus de gaz, mais aussi à la baisse. Quand il y avait besoin de moins de gaz, quand il y avait besoin de plus de gaz, on prenait plus de gaz russe. Quand il y en avait moins, en fait, on stockait le gaz russe et on remplaçait ces fameux stockages, hein, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps sur l'Union européenne. Il est bien évident que cette fonction-là, elle disparaît. Et que probablement aujourd'hui, l'Union européenne va se trouver dans une concurrence directe pour son approvisionnement en GNL avec l'Asie. Donc fourniture probablement plus chère, le GNL est de toute façon à un coût plus élevé, fourniture plus chère et totalement en concurrence avec l'Asie, ce qui change profondément en fait la configuration du marché gazier de l'UE et ce qui change probablement son processus de libéralisation. Et c'est là le deuxième point qui me semble important de mentionner. Mettre la Russie sur les hydrocarbures, la sortir du jeu international, hein, ça n'est pas comme mettre des sanctions sur l'Iran ou le Venezuela. La Russie, c'était le premier exportateur mondial de pétrole et de produits pétroliers, c'est-à-dire 8 millions de barils par jour. Et deuxièmement, c'était le premier exportateur mondial de gaz avec à peu près 250 milliards de mètres cubes de gaz. Remplacer une telle fourniture va être extrêmement compliqué en termes d'investissement, en termes de zones dans lesquelles on va produire. Et probablement ce que cette crise, elle met fin à une idée qui avait été qui datait depuis les années 90, qui était de dire les marchés internationalisés, concurrentiels sont le meilleur moyen de gérer les questions de sécurité d'approvisionnement, de gérer la question climatique. La crise qui est en train de se passer et la manière dont elle est gérée, et je prendrai comme exemple, là, la manière dont elle est gérée, c'est de dire on va caper des prix, on va caper le prix du pétrole pour éviter des revenus financiers à la Russie, on va caper le prix du gaz. En fait, ça met fin au principe concurrentiel, au principe d'organisation des marchés concurrentiels. C'est-à-dire des marchés où le prix est déterminé par l'offre et la demande. On voit bien que ce qui est en train de se passer, c'est à nouveau l'idée que l'énergie, ce n'est pas un bien marchand comme les autres. L'énergie, ça peut être un bien stratégique dans lequel les États sont en train de réintervenir de manière importante. Et le troisième point que je voudrais rapidement évoquer, et après j'en resterai là, c'est que cette réorientation des échanges, hein, puisque on va avoir un basculement de la Russie plus vers l'Asie, elle est quand même porteuse de nouvelles modalités d'échanges et des modalités qui sont en totale contradiction avec ce qui a pu être élaboré depuis les années 90, où on a cherché à établir des modalités très transparentes, de normaliser les contrats, de normaliser la fiscalité, de normaliser les types contractuels d'échanges qu'on mettait en place. Ce basculement vers la Chine, il se fait avec des prix très différenciés de ce qu'on a constaté sur des marchés libres, hein, des marchés spot. Il se fait avec une monnaie qui n'est plus le dollar. Et il se fait avec des stratégies, soit de remontée vers l'amont pour les acheteurs, soit de descente vers l'aval pour les vendeurs, c'est-à-dire vers une logique qui n'est pas la logique concurrentielle. Donc la grande question aujourd'hui qui est posée par le basculement de la Russie vers d'autres zones ou par une moindre exportation de pétrole et de gaz, c'est cette idée que finalement pourrait être remise en cause toutes les grandes logiques qui visaient à mondialiser le marché du gaz naturel et à mondialiser le marché du pétrole. Parce que à partir du moment où vous allez avoir des logiques de prix différenciées suivant les types de régions dans lesquelles vous allez échanger, à partir du moment où vous allez essayer de caper des prix, on met en cause fondamentalement la question du prix mondial du pétrole et du gaz. Donc la crise entre la Russie et l'Ukraine, elle a certes des conséquences fortes sur l'économie russe, mais en retour, elle a aussi des conséquences extrêmement importantes sur l'architecture des marchés pétroliers et gaziers. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Catherine. Vous avez, tout comme Julien, été parfaite sur le plan horaire. Je vous souhaite bon rétablissement, beaucoup de paracétamol, mais restez avec nous encore si vous le pouvez pendant une petite heure. Et il peut y avoir des questions qui s'adresseront à vous directement. Voilà. Donc. Alors, la discussion est ouverte. Je n'ai pas reçu de SMS, donc vous pouvez poser des questions oralement. Et s'il n'y en a pas de pressante, alors je vais me substituer à... Alors, j'ai une première question là et une autre derrière. Alors, monsieur, s'il vous plaît.
Sur quel point de comparaison, de similitude peut-être et de divergence pourriez-vous voir avec ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années, la course aux étoiles, donc Reagan-Gorbatchev, où effectivement l'économie de la Russie a, voulu faire la course à l'échalote en termes d'armement, donc beaucoup de défense militaire pour finalement... pas y arriver et au final,
5
à 6 ans après, la
famille non-soviétique. Alors, c'est beaucoup plus facile de montrer les différences que de montrer les similitudes hein, dans ce genre de comparaison. Hein. Alors, je vais peut-être commencer par les différences. Les différences, c'est qu'on était dans un contexte d'essoufflement de l'économie soviétique beaucoup plus avancée, avec des tensions qui devenaient de plus en plus insupportables pour l'ensemble du système soviétique, plus le pacte de Varsovie. Tout ce système-là se délitait. Et cette course aux armements a été un petit peu le déclencheur et l'accélérateur de ces processus, le coup fatal. Donc premier élément. Deuxième élément, on avait quand même à ce moment-là une tendance relativement longue à une baisse des prix du pétrole. C'est-à-dire que la capacité de l'Union soviétique à compenser des difficultés internes par l'importation liée à son exportation de pétrole était plutôt en voie de diminution et elle avait des tensions de plus en plus importantes. Ce qui fait que l'Union soviétique était en phase d'endettement croissant. Donc vous avez des vulnérabilités qui se cumulaient et dont certaines étaient très structurelles, c'est-à-dire qu'elles étaient inscrites depuis 50 ans dans l'évolution de l'économie soviétique, dans le fait que son système économique n'était pas du tout en mesure de faire face à la complexification et à la densification de l'économie occidentale. Bon, aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là. Hein. On a une évolution des prix qui est extrêmement erratique. Juste un point, hein, pour vous dire que la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain. Il y a 2 ans, les prix du pétrole étaient négatifs. D'accord ? Négatifs. Donc, voilà, c'est pour indiquer qu'il y a quand même des variations très très fortes. Et c'est ça la caractéristique des prix du pétrole. C'est pas qu'ils sont élevés, c'est qu'ils sont très, très volatiles aujourd'hui. Ce qui était un peu le cas déjà dans les années 80, mais qui était quand même beaucoup moins le cas qu'aujourd'hui. Deuxième grande différence, la Russie n'est pas en train de s'endetter fortement. Elle s'est désendettée très très largement. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas une vulnérabilité liée à sa capacité d'obtenir des devises étrangères, mais pour l'instant, elle a encore la possibilité de voir venir. Ce qui n'était pas du tout le cas de l'Union soviétique de Gorbatchev. Voilà. Et puis, dernier point, contexte politique très très différent. On avait un Gorbatchev qui était plutôt là pour essayer de s'ouvrir et de se rapprocher des puissances occidentales pour limiter les dégâts. Vladimir Poutine est dans une logique complètement inverse, une logique de fuite en avant, de fuite vers la confrontation. Hein ? Vous voyez toutes ces différences ?
Si tu me permets, j'en rajouterai une. L'état de l'économie mondiale et l'insertion de l'Union soviétique dans celle-ci était également très, très, très différent. Comme je l'ai dit, c'était une économie un peu autarcique, enfin, qui limitait ses échanges extérieurs. La mondialisation elle-même n'avait pas atteint le degré de généralité qu'il y a là. Et par voie de conséquence, l'Union soviétique n'était pas autonome. Mais son degré d'interdépendance avec d'autres économies du monde était très faible comparé à sa situation en février dernier. Et ça change énormément la donne également et les solutions. Enfin, je ne remet en cause aucun des propos précédents, mais il faut avoir ça aussi à l'esprit. Et donc moi-même, en m'excusant auprès du monsieur à qui je vais donner la parole ensuite, j'aurais envie de poser une question à nos panélistes. Est-ce que cette guerre n'est pas une étape dans ce que d'aucuns ont appelé depuis quelques années la démondialisation de l'économie ?
Oui, non, simplement indiquer que oui, je suis d'accord avec ce diagnostic, c'est avec le fait que c'est une étape. En fait, l'économie mondiale connaît une succession de chocs depuis 2008. Premier choc vraiment systémique de l'économie mondiale. Et à partir de ce moment-là, on a une succession de chocs d'ampleur différente et de nature différente qui la touche et qui contribue non pas à démondialiser, parce qu'on n'a jamais échangé autant de données, par exemple, mais à la fragmenter, c'est-à-dire à créer des silos au sein de cette économie et à faire qu'il y a une économie qui est plus en réseau avec des réseaux plus ou moins denses plutôt que un grand océan où tout serait mêlé. Hein. Et donc, peut-être derrière ça, il y a l'idée qu'il y aura en parallèle des ensembles géoéconomiques, pas forcément contigus ni continus géographiquement, qui pourraient participer à la restructuration de ce qui sera une autre mondialisation que celle qu'on connaît aujourd'hui.
Alors, j'avais une question, monsieur.
Merci. Ma question, elle est sur la question humaine. Une fracture autour de polarisation très importante. La Russie, ça a été très révélé par ce conflit ukrainien, sur lequel il y a une partie de la population qui s'est montrée complètement hostile à cette politique de conflit et qui a quitté le pays. Notamment dans les personnes qui ont quitté le pays, il y a beaucoup de démocrates et il y a un exode des cerveaux qui a été important de la Russie. Cet exode des cerveaux, si je ne me trompe pas, il n'a pas été accepté par l'Union européenne. C'est-à-dire que les démocrates russes n'ont pas été intégrés. Du coup, est pris comme réfugié, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont partis vers des pays comme la Turquie. Je voudrais avoir une évaluation de ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on sait à peu près à quel point les chercheurs, le monde de la culture, etc., a quitté en partie la Russie, et à qui est-ce que ça bénéficie, et qui sont les perdants de ça ?
Je cherche, c'est que j'ai un slide que je ne vous ai pas assez commenté, vous aviez les chiffres. Mais c'est pas grave.
Je réponds pas exactement à votre question, mais deux collègues vont peut-être fournir des données que vous demandez. Mais votre questionnement répond un peu à la question que j'avais posée au départ, qui était est-ce qu'il se crée une économie de pénurie en Russie ? Eh bien, ce qui est déjà certain aujourd'hui, c'est que ce pays va être en pénurie de ce qu'on appelle le capital humain. Son capital humain s'enfuit, sort. Or, le capital humain, c'est l'un des éléments essentiels de la croissance. C'est pas le seul, l'autre étant l'investissement. Mais Tania nous a déjà dit, ou nous a indiqué, que le ratio investissement sur PIB se porte pas bien. Mais le facteur que vous avez évoqué, c'est pire encore. On revit sous... Alors, toute comparaison de ce genre n'est pas bonne en général, mais on revit un peu ce qui s'est passé entre 17 et 21, où toute l'intelligentsia s'est enfuie et il a fallu deux ou trois décennies pour reconstituer une intelligentsia soviétique. Voilà, et c'est de ce point de vue le facteur que vous soulignez est très très important, en tous les cas à mes yeux, mais peut-être que mes deux collègues veulent concrétiser un peu cela.
Oui, moi je voudrais juste rajouter deux, trois petites choses qui sont un peu dans le désordre. D'abord sur la politique européenne. Bien sûr, elle est faite de compromis, mais c'est quand même surtout les nations qui décident dans ce genre de situation. Et du coup, on a des positions qui sont très hétéroclites à l'intérieur. Mais il faut pas non plus noircir trop le tableau. Je prends juste un exemple à mon niveau. On a un programme d'accueil des chercheurs et enseignants et également créatifs, parce que ça s'est un peu échappé de la seule question des enseignants-chercheurs, en France. Et aujourd'hui même, il y a une réunion d'études des différents dossiers de demande. Et les budgets qui ont été consacrés à ça sont des budgets beaucoup plus importants que les années précédentes. Et on a très vite insisté pour que ce ne soit pas réservé aux Ukrainiens, mais que les Russes également puissent y avoir accès, ce qui est le cas. D'accord ? Donc il y a des choses quand même qui sont en cours et qui sont symboliques, mais qui montrent qu'il y a quand même un travail qui est mené là-dessus. Deuxième élément, je regardais les chiffres sur les migrants. Je pense que, par exemple, sur la Géorgie, ils sont tout à fait sous-estimés. J'étais en Géorgie cet été.
Absolument, en fait, je ne l'ai pas commenté, mais ouais. Absolument bon. D'accord. C'est des chiffres.
C'est-à-dire que
ceux qu'on trouve au film.
On voit en Géorgie, on voit des choses tout à fait étonnantes. On voit à la fois beaucoup de drapeaux ukrainiens, mais on voit énormément de touristes russes. Énormément de touristes russes. Tu parlais des prix de l'immobilier au Kazakhstan. Les prix de l'immobilier à Tbilissi sont absolument stratosphériques. Et ça veut dire plusieurs choses, ça, qui sont assez complexes à démêler et pour lesquelles on n'a pas complètement l'analyse, une analyse définitive. D'abord, ça veut dire qu'il y a un afflux très important de citoyens russes qui se sentent plus en sécurité, éventuellement en accord avec eux-mêmes, à l'étranger, mais qui ne vont pas très très loin parce qu'ils se disent peut-être que dans pas très longtemps, je pourrais revenir. Il y a des questions de visa aussi, il y a des questions d'opportunité qui se jouent, puis ils ont l'habitude de venir, bon, il y a tous ces sujets-là. Mais ça veut dire aussi autre chose, c'est que pour l'instant, j'ai un peu étudié la question du secteur du génie logiciel et des entreprises de services informatiques en Russie. Je sais que c'est une industrie qui est extrêmement intéressante, très importante et tout de suite très connectée avec le reste du monde. Depuis le début, elle s'est développée dans les années 90, à l'abri des radars, et c'est une des explications de son essor. Mais mettez-vous à la place d'un informaticien russe, il est bien à Tbilissi, mais aussi pour travailler pour son entreprise russe. Donc il peut très bien continuer à contribuer à l'activité économique de Russie, tout en étant à Tbilissi. Vous voyez, les choses sont plus compliquées que ce qu'on peut penser en disant il y a un flux, un brain drain, etc. Hein. Donc, voilà, il faut suivre ça de très près pour essayer de démêler quelles sont les véritables conséquences que l'on peut en tirer. Et je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse en tirer. Le dernier point, quand même, qui est important à noter, c'est que ça se fait dans un contexte qui est un contexte démographique défavorable. C'est un contexte dans lequel ce sont les classes d'âge peu nombreuses qui arrivent à l'âge actif. Et donc, de toute façon, on avait déjà une contraction de la population active russe. C'est même pas une question d'équilibre avec les retraités. C'est une question juste de croissance potentielle. Avec moins de gens, vous pouvez faire moins d'activités économiques. Et c'est le cas. Et aujourd'hui, on a une chute sans parler de la migration, une chute de la population active russe qui est extrêmement forte, hein, malgré les politiques natalistes qui ont été tentées en 2005-2006 de Vladimir Poutine et qui ont fait long feu, en fait, aujourd'hui. Donc, je pense que les grandes évolutions structurelles, fondamentales, dépassent ce qu'on est en train d'observer, même si, évidemment, il y a un impact de l'émigration, du brain drain, etc. Je ne suis pas en train de minimiser, mais je suis en train d'essayer de dire qu'il faut quand même relativiser ces éléments-là.
Et je crois que c'est une très bonne conclusion pour cette session. De toute façon, nous sommes arrivés au délai. J'espère qu'aucune question n'a été retenue ou que personne ne va partir frustré. Et en tous les cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cette session et merci particulièrement à nos panélistes.